Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort voile l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je n'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, votre émission hebdomadaire sur le cinéma, avec des chroniques de films qui sont dans les salles, et puis aussi, alors on a le choix, parfois c'est des blind tests, parfois c'est des interviews, et aujourd'hui ce sont deux interviews, l'une d'un réalisateur, c'est Gaël Morel, et puis de son acteur, qui est Victor Belmondo, le petit-fils de feu Jean-Paul. Sophia, tu as le gros morceau de l'émission quand même.
Oui, le dernier film de Francis Ford Coppola que j'ai eu la chance de voir à Cannes, où on était en mai dernier.
Et puis toi, tu as une comédie, Guillaume.
Oui, c'est Les Barbares, le dernier film de Julie Delpy.
Et toi, Manu, deux films, l'horreur et puis l'isolement.
L'isolement en Islande. Bah, c'est un peu un pléonasme, hein, l'isolement en Islande, avec les belles créatures et puis Speak No Evil.
Et puis moi, donc, je vous parlerai de Vivre, Mourir, Renaître de Gaël Morel. Mais nous allons commencer avec ce qui est sûrement le dernier film d'un des plus grands réalisateurs du XXe siècle. Nous parlons de Mégalopolis.
Dites-le.
Cinérama.
C'est très clair.
Comment un empire meurt-il? S'effondre-t-il en un seul et tragique instant? Non. Mais il arrive un jour où son peuple n'y croit plus.
César Catilina, le personnage central de Mégalopolis, interprété par Adam Driver, pourrait très bien sortir d'un roman d'Ayn Rand. Et Guillaume, tu es certainement celui qui, dans ce studio, est le mieux placé pour corroborer, puisque tu es bien familier de l'œuvre de cette autrice. Au même titre qu'Howard Roark dans le roman La Source Vive, le héros coppolien est visionnaire et individualiste. Il incarne ce mélange entre génie et utopie, un architecte rêveur qui tente de redéfinir une ville en déclin. Ce rôle au cœur du film reflète la lutte pour la reconstruction d'une société utopique en défiant les autorités et normes conventionnelles dans un monde en mutation. Celui que Coppola a non seulement bien connu, mais qu'il observe à présent du haut de ses 85 ans. Car c'est seul, ou presque, que Coppola finance ce projet titanesque, un film héritage mégalo, peut-être conçu comme le dernier grand chef-d'œuvre du vétéran. 120 millions de dollars qu'il réunit en vendant une part de ses actifs et même ses vignobles pour ce projet personnel et ambitieux de prospective fiction. Il nous laisse avec une vision d'un avenir idéal pour l'humanité en portant une réflexion sur la filiation familiale, sociétale, artistique. Pourtant, en dépit de ses ambitions vertigineuses, Mégalopolis a laissé le public de Cannes, où il était projeté cette année en avant-première, pour le moins partagé. Comme beaucoup de spectateurs cannois, j'ai été à la fois séduite par la densité visuelle et la richesse des références du film, mais également déçue par son incapacité à émouvoir profondément et son côté un peu foutraque.
Ne laissons pas le présent détruire l'avenir.
Mesdames et messieurs, et chers enfants de tous âges, bienvenue.
Formellement et dans les références, ce péplum politico-futuriste rappelle Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, avec ses couleurs saturées, son esthétique baroque 70s et son opposition shakespearienne entre deux clans qui s'affrontent sur leur vision. Le tout se déroulant dans une Amérique contemporaine sur fond d'empire romain. Dans Mégalopolis, nous suivons donc Catilina, un architecte ambitieux qui a le pouvoir d'arrêter le temps et qui tente de transformer la ville de New Rome, en déclin, en une utopie moderne. Il se heurte cependant à l'opposition du maire conservateur, Franklin Cicero, et du banquier Hamilton Crassus, qui représente des forces politiques et économiques contraires à son projet. Alors, vous l'aurez peut-être relevé, les noms des personnages ne sont pas anodins. Crassus, le banquier, rappelle Marcus Crassus, l'homme le plus riche de Rome, symbolisant les élites économiques qui cherchent à maintenir leur pouvoir. De même, Franklin Cicero, le maire, fait écho à Cicero, l'orateur et défenseur de la République romaine. Leur opposition à l'architecte, Catilina, reflète un combat idéologique sur l'avenir de la société, une lutte entre les forces conservatrices et celles du changement. À ce titre, le film de Coppola, bien qu'imaginé il y a 10 ans, semble aujourd'hui presque prophétique. Mégalopolis dépeint une New York moderne, rongée par la corruption, un empire décadent où le pouvoir est concentré entre les mains de quelques-uns. L'analogie avec la Rome antique et la chute de l'empire est très claire, mais le film résonne aussi avec l'Amérique contemporaine, où les institutions démocratiques sont fragilisées. L'opposition entre les protagonistes de Mégalopolis n'est pas sans rappeler le combat entre progressistes libertaires et conservateurs privilégiés qui déchirent les États-Unis d'aujourd'hui. Cicero et Crassus évoquent à bien des égards cette élite new-yorkaise, dont Donald Trump est l'incarnation même. Et le projet de Coppola trouve ainsi une résonance particulière. Force est de constater qu'à travers ses œuvres, le réalisateur de légende a toujours montré un certain talent pour anticiper, comme c'était par exemple le cas avec son film Conversation secrète, qui prenait toute sa signification 10 ans plus tard avec le scandale du Watergate.
Est-ce que cette société, ce mode de vie, sont les seuls à notre disposition ?
Reprenons le pouvoir sur notre ville !
Et quand on pose ces questions, quand un dialogue s'instaure, on est déjà dans une utopie.
À Cannes, un autre élément marquant de cette projection était le modus operandi mis en place. Une personne montait sur scène pour briser le quatrième mur, interagissant avec le personnage de Catilina sur l'écran. Alors ce geste audacieux a été reproduit lors de toutes les projections officielles suivantes et la société de distribution, le Pacte, encourage les salles de cinéma à intégrer cette interaction lors des projections publiques. Cette dynamique ajoute une couche supplémentaire à l'expérience cinématographique de cette fresque ambitieuse, déjà certes très riche, et j'espère que vous aurez la chance de visionner le film dans une salle de cinéma qui joue le jeu. Enfin, si on demandait à Coppola « What's your Roman Empire ?», comme dans ce mème devenu viral depuis 2023, il répondrait sans doute que son empire romain à lui, c'est l'empire romain, mais aussi cette tentative de réinventer une civilisation idéale et de laisser sa trace. Un projet qui fascine, mais peut laisser le spectateur partagé entre admiration et perplexité.
Nous vous invitons donc à vous faire votre avis sur sans doute ce dernier film de l'octogénaire américain. Elle a l'habitude de nous régaler avec ses comédies. Julie Delpy a sorti Les Barbares avec Sandrine Kiberlain et Laurent Lafitte.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre.
Pimpon, c'est une ville qui bouge pas mal, hein ? Dès que les Russes ont envahi l'Ukraine, tout le village s'est mobilisé.
C'est vrai que les Ukrainiens, ils ont beaucoup souffert. J'ai voté pour qu'on les accueille.
Il était une fois à Pimpon, donc en pleine Bretagne, un petit village indéductible français plutôt traditionnaliste, de par leur enclave géographique naturelle, va connaître un gros bouleversement. Alors le conseil municipal a voté à la majorité, un poil forcé, l'accueil de réfugiés ukrainiens. Jusqu'ici, tout va bien. On se laisse émouvoir par les récits de guerre et les sentiments qu'il faut faire quelque chose pour aider les malheureux. Sauf que le jour J, ce ne sont pas des réfugiés ukrainiens qui arrivent, mais des réfugiés syriens. Patatras. Alors pour certains, l'amalgame entre Syriens et terroristes islamistes est tout de suite envisagée, et même si la bonté et la bonhomie locale prend bien évidemment le dessus, une attitude et un regard biaisé est adopté par les locaux face à ces nouveaux arrivants que certains voient comme des barbares. Tout du moins, c'est le terme employé dans le titre du dernier film de Julie Delpy et prémâche un certain préjugé qu'elle va imputer à certains membres de la troupe de nordistes. S'en suivent plusieurs réflexions. Qu'est-ce qu'un étranger ? Qu'est-ce qu'un barbare ? Qu'est-ce qu'un être humain ? Qu'est-ce que l'humanité ? Qu'est-ce qui fait un bon film social et engagé ?
Hervé Rioux, adopté à l'unanimité.
Je me suis occupée de tout l'administratif pour la venue des réfugiés. Excusez-moi, il faut que je vous parle.
C'est qu'il y a eu tellement de demandes de réfugiés ukrainiens, il n'y en a plus.
En fait, ce sont des Syriens.
Des Syriens qui viennent d'Ukraine.
Non, de Syrie.
Retour vers la comédie quasiment pure et dure avec les barbares, pour Julie Delpy, après une série sur Canal+ passée inaperçue, et surtout l'excellent thriller de science-fiction My Zoé sur le deuil et le clonage humain comme possible solution, qui avait vu sa sortie sacrifiée à cause du Covid, qui avait chamboulé, vous le savez, toute la chaîne de distribution et de diffusion de films dits intermédiaires. Alors peut-être parce que la comédie marche mieux en France que la revoilà reprendre sa plume et sa caméra dans ce genre après le très amusant Lolo et les deux Two Days, Days in Paris et Two Days in New York. Mais celui dont Les Barbares se rapproche le plus de sa filmographie est Le Skylab, à la fois étude d'une petite communauté et discussion et situation presque alénienne sur la vie, l'existence et ce qui définit notre recherche du bonheur via notre rapport à la vie et aux interactions avec l'autre dans le but de mieux exister. Les Barbares s'alignent sur ces thématiques et même préoccupations. Car s'il est sûr que ce film a un aspect opportuniste dans le sens où il colle à un sujet d'une extrême et chaude actualité, il apporte aussi sa pierre à l'édifice des questionnements que se pose son autrice. L'humanité, ou le sentiment d'humanisme, c'est ce qui est au cœur d'une comédie qui se veut grinçante. Et ça frappe fort dès la première image, montrant un portrait d'Emmanuel Macron dans une mairie, suivi de l'introduction au problème qui va frapper le petit village par le maire lui-même, une sorte d'imbécile heureux qui préside un documentaire fait sur l'accueil des réfugiés dans les murs qu'il administre.
Si t'étais Mère Teresa, tu serais en Syrie, tu serais pas à Pimpon là.
Faut créer une dynamique autour des faillades.
C'est-à-dire, je comprends pas. Je parle pas le Macron, moi.
Il faut défendre notre identité régionale, l'âme bretonne.
Mais t'es alsacien.
Alors les ploucs, c'est peu ou prou ce que sont les habitants de Pimpon, de l'institutrice idéaliste et tête en l'air jouée par Julie Delpy, en passant par la grosse charcutière qui couche avec le grossiste, qui cocufie sa femme alcoolique interprétée par Sandrine Kiberlin, sans oublier les indécis et surtout l'électricien réac et facho incarné par Laurent Lafitte, mâle alpha dominateur qui impose, mais mollement, ses convictions à sa cruche de femme qui gobe tout ce qu'il dit. Alors leur destin va prendre un tournant inattendu quand les nouveaux arrivants vont dévoiler leur visage qui n'est pas celui espéré et craint.
T'as trois femmes, le gars ?
Mais non, je t'ai dit, il y a aussi sa sœur et sa fille.
J'ai aucun problème, arabe.
C'est pas une insulte, hein.
Le racisme, c'est les gens qui aiment pas les noirs. Mon père, il aime bien Mbappé ou Omar Sy.
Le racisme, ça vient de la peur.
Bonjour !
La peur qu'on leur prenne leurs femmes.
Pourquoi tu fais coucou, toi ?
Quoi ? Welcome here ! La peur qu'on leur prenne leur travail. Anne et Philippe ont décidé de vous offrir des produits d'ici.
Oui, enfin, il y aura des produits qui seront un peu périmés d'une ou deux journées, mais c'est très bon, moi je mange que ça.
Alors résumé comme ça, on se dirige tout droit vers les heures sombres de la comédie récente et dont le jadis talentueux Christian Clavier s'est fait une spécialité depuis 10 ans pour assurer ses vieux jours à droite. Il est sûr qu'il est fatigant de voir en 2024 que classe populaire rime encore avec du Front National et il serait quand même temps de fuir un jour les amalgames que toute une tranche politique s'évertue d'éviter jusqu'à la contre productivité dans la vraie vie. Mais Julie Delpy trouve la parade parfaite pour être inattaquable. Elle dégaine en début de film la formule consacrée « Il était une fois », plaçant le film sous la fausse égide du conte, mais tout entier tourné vers une morale de fable étudiée comme telle, exagération à l'appui. Alors découpez-les en actes, avec tableaux montrant des invasions barbares et avec du Mozart ou du Beethoven pour contrebalancer le regard sur ces réfugiés, eux nobles, cultivés et charismatiques, les Barbares évitent de peu la sortie de route démagogique en faisant évoluer son monde tout le long de la simple mais efficace intrigue et surtout a le courage d'aller jusqu'au bout de son propos en ce qui concerne les destins et les traitements de certains personnages. Certains courageux et méritants, d'autres veulent et faisant beaucoup de bruit pour rien. La fin, entre amour, prise de position concrète sur le monde et construction d'un futur local comme global, délivre avec force le message humaniste porté par sa réalité. Alors il est simplement dommage qu'il faille passer par autant de lieux communs et d'autoflagellation pour en arriver plus vite à ce que les Barbares réussissent le mieux à faire en seconde partie de métrage, c'est-à-dire faire ouvrir les yeux avec positivité sur une situation mondiale dramatique, mais à laquelle de nombreux travaux peuvent apporter des tournures aussi humaines que décisives. J'en veux pour preuve son ultime plan très éloquent. Puissent les Barbares marcher suffisamment pour pouvoir permettre à son autrice de revenir un versant plus risqué de sa filmographie, car si j'évoquais Maïzoé, j'espère un jour revoir justement un projet de la trempe du magnifique La Comtesse, redevenir une de ses priorités, là où la métaphore permet au fond du sujet d'exploser à un objet de cinéma total.
Nous parlions des Barbares, film de Julie Delpy en salle depuis le 18 septembre. Avant de retrouver l'interview de Victor Belmondo, petit-fils de Jean-Paul, nous allons parler d'un film islandais, des garçons qui explorent la brutalité et la violence comme seul moyen d'expression et d'exister. Nous parlons des Belles Créatures.
Bah oui, c'est le film est bien.
This is Cinérama.
Oui, c'est bien mon avis.
Les Belles Créatures, alors, n'incarnent pas l'orthodoxie d'un cinéma islandais exportable, souvent marqué par une esthétique très forte au service de récits mystiques mettant en valeur la topographie des lieux, en l'occurrence des paysages somptueux. Alors le film prend racine dans un contexte social qui peut surprendre par sa noirceur de l'extérieur, ce que l'on perçoit ou suppose du mode de vie islandais ne transparaît nullement dans ce projet atypique. Alors l'Islande donne l'image d'un pays quand même riche et très peu peuplé. Or Guðmundur Annar Guðmundsson, oui c'est son nom, hein,
bravo, bravo.
Voilà, scénariste et réalisateur, s'emploie à déconstruire notre rapport à cette île en filmant dès les premiers plans un monde en proie à la délinquance juvénile de plus en plus prégnante qui sévit dans un univers pavillonnaire morose sans aucun attrait esthétique. Alors au contraire, les infrastructures sont laides, implantées dans un espace géographique terne. Le réalisateur dresse le portrait d'une jeunesse désœuvrée, attirée par la violence, laissée à la marge par des parents absents, souvent alcooliques et ou dépressifs. Voilà.
C'est l'Islande.
C'est l'Islande. Non, mais non, parce qu'il y a peu de délinquance, en fait, quand on regarde vraiment les chiffres.
Ah oui.
Alors voilà, c'est... Alors le film compte, c'est l'histoire de Bali, un ado introverti et isolé, qui vit donc avec un beau-père brutal et violeur, et puis une mère dépressive. Et puis, alors il est victime de harcèlement par ses petits camarades. Adi, élevé lui par une mère qui a des visions mais qui ne va pas très bien non plus, hein, va prendre sous son aile Bali et l'intégrer dans son groupe de potes marginaux livrés à eux-mêmes.
Skýrslum lögreglu hefur ofbeldi meðal ungmenna verið vaxandi vandamál á Íslandi.
Présenté au Festival de Berlin en 2022, donc le film sort 2 ans après, quoi. Les Belles Créatures est une réussite mineure qui aborde avec âpreté des thématiques sociétales et intimes comme l'homosexualité, l'inceste, la pression sociale, l'éducation, sans qu'on ait l'impression du côté fourre-tout qui pourrait handicaper le film. La mise en scène, aride mais soignée, est constamment sur un fil entre une captation d'un réel bien déprimant et un onirisme, hein, qui pourrait être une porte de sortie pour la bande d'adolescents traitée avec beaucoup de justesse. Une empathie distanciée qui évite toute forme de sensiblerie. La dimension surnaturelle aussi est habilement intégrée à ce récit initiatique. Guðmundsson, hein, décrit très bien le mécanisme d'harceleur-harcelé, dominant-dominé au sein d'un petit groupe, l'aspect mouvant que peut revêtir ces rapports de force où le bourreau peut devenir la victime en un clin d'œil, comme s'il s'agissait d'une sorte de jeu de rôle. Mais dans ces changements parfois brutaux de position, hein, un espoir se dégage, un champ des possibles s'ouvre à ces jeunes malgré l'enchaînement tragique des événements à l'écran. La noirceur du métrage n'est pas une fin en soi et le titre pas si ironique que cela. Hein. Le cinéaste éprouve une vraie tendresse pour ses jeunes protagonistes et leur offre même une possible rédemption. Alors derrière leur comportement sadique, voire meurtrier, ils peuvent aussi faire preuve d'amour. C'est dans cette équivocité que le film trouve sa voie, ce qu'il a de plus beau à proposer, d'autant que les jeunes comédiens sont tous remarquables d'authenticité. Alors on regrettera parfois le maniérisme de la réalisation, certains effets de caméra chichiteux, une bande-son appuyée, puis une photographie qui se laisse aller à la joliesse, en contradiction avec la dureté du sujet. Mais en dépit de ces scories, hein, Les Belles Créatures, bah, s'avère tout à fait recommandable, lointain cousin, en moins séduisant, hein, de Stand By Me de Rob Reiner. Bon, c'est pas très drôle quand même. Hein.
C'est pas l'Islande merveilleuse. Voilà. Donc, c'est Les Belles Créatures, voilà, en salle depuis le 25 septembre. C'est l'interview maintenant de cette émission. Gaël Morel et Victor Belmondo, nous parlons de vivre, mourir et renaître.
J'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Cinérama.
C'est votre dernier mot ?
Gaël Morel, le comédien qu'on a découvert il y a fort longtemps aux côtés d'Élodie Bouchet dans Les Roseaux Sauvages, d'entrée Téchiné, plutôt un réalisateur, hein, tourné dans la foulée de son succès chez Téchiné, à toute vitesse, avait marqué les esprits. Alors les autres films, un peu moins. Son dernier long métrage, le 7e, était programmé à Cannes Première, hein, cette espèce de case où le Festival de Cannes place les films français qui n'ont pas les atouts pour aller se frotter à la compétition, mais qui méritent qu'on s'y attarde quand même un peu. Avec Vivre, Mourir, Renaître, Gaël Morel nous renvoie dans les années 90 à la période du sida. Mais le film ne se veut surtout pas une fiction sur la maladie, mais plutôt sur la liberté et le souffle qui l'accompagne. Alors sur le ton du mélo, baigné de lueurs, le réalisateur suit 3 personnages. Il y a 2 hommes qui se rencontrent et s'aiment, mais l'un d'entre eux aime aussi une fille avec qui il a un enfant. Ce petit monde coexiste avec la maladie. Car Cyril, interprété par Victor Belmondo, est séropositif mais pas malade, quand Samy, Théo Christine, lui est séropositif et atteint par le sida. Donc tous finissent par être séropositifs, mais personne n'a le même parcours. C'est ainsi que Gaël Morel nous permet d'embrasser une période où des solutions thérapeutiques sont arrivées, pas toutes d'ailleurs couronnées de succès. Alors ce qui draine le film, c'est la volonté pour les personnages de vivre avec le virus du VIH. La maladie n'a pas le même impact chez les 3 protagonistes de cette histoire. Le titre prend alors tout son sens. Hein. Pour l'un, il est temps de mourir, pour un autre, de vivre encore et toujours, et puis un dernier, de reconsidérer ce qu'est vivre, donc renaître. Nous écoutons le réalisateur Gaël Morel que nous avons pu rencontrer.
Je voulais te demander si je pouvais te photographier un jour.
Pourquoi pas ?
C'est le travail du voisin.
C'est pas mal.
C'est vachement bien, tu veux dire ?
C'est drôle, tu ressembles pas tellement à tes photos.
Je suis un garçon très sérieux.
Comme tous les réalisateurs, comme tous les gens qui écrivent, qui font des films, des chansons, je parle de ce que je connais, de ce que je suis. Il se trouve que j'avais 18 ans, 90. Donc il se trouve que je suis d'une génération qui a eu la chance de ne pas appartenir à celle justement foudroyée par le sida, parce que moi à 10 ans, donc on peut quand même imaginer que j'avais pas encore eu de rapport sexuel à 10 ans. Et c'est là où l'épidémie a commencé à se déclarer. Donc, et je trouvais important de le faire déjà parce que c'est important de parler aussi de générations dont personne ne parle. Et je pense qu'on a très peu parlé de la génération à laquelle j'appartiens. Et que c'était important aussi pour les nombreux séropositifs qui vivent très bien aujourd'hui d'avoir un film qui leur rend hommage et qu'en fait des héros positifs.
Tu le trouves comment, Cyril ?
Oui, je sais pas.
Moi, je le trouve beau.
La photo, c'est ta drogue, en fait. Tu peux pas t'en passer.
C'est la première fois que j'entends entendre mot sortir de ta bouche.
Je suis pas bavard quand je connais pas.
On se connaît, maintenant.
J'ai voulu mettre des éléments qui soient évocateurs pour les gens de cette génération. Mais je pense que pour moi, il y a aussi un pont qui est tracé. Parce que cette jeunesse qui sème de façon si libre dans le film, pour moi, elle correspond à la jeunesse d'aujourd'hui, quoi. Et en fait, je voulais aussi donner à voir aux jeunes d'aujourd'hui que quand on s'émet de cette manière-là avant, on pouvait y risquer sa vie, quoi. Que la loi n'avait pas encore autorisé les pacs, les mariages, et que chacun devait s'inventer ou inventer un système pour se sauver, quoi.
Arrête. Je suis séropo.
Mais t'avais l'air malade.
C'est pas écrit sur la gueule des gens.
Moi, quand je fais film, j'ai un désir de cinéma parce que je suis pas un médecin, j'ai pas l'impression d'avoir été un militant. Si on considère que militer, c'est vraiment diffuser un discours massif comme ça. Mais je suis surtout un cinéaste, cinéphile. Et quand je fais ce film, il y a la volonté de faire un mélo. Et avec une histoire d'amour. Donc évidemment, l'amour et la mort, c'est vraiment les bases des bases éternelles d'un mélo, quoi.
Et que tu te tapes précisément un mec que je connais qui est aussi un ami. Tu veux qu'on se quitte ?
Bien sûr que non. J'ai jamais pensé à être ailleurs qu'avec vous. Je comprendrais que tu veuilles plus me voir.
Vous vivez ce que vous avez à vivre. Je veux pas le voir.
Moi, ce qui me touche dans un mélo, c'est les scènes de joie. Je trouve que les films sont toujours émouvants dans les scènes de joie. Que les mélos, c'est pas les moments où les personnages sont les plus tristes, que c'est le plus touchant, quoi. Moi, les mélos que j'aime, en fait, c'est pas nécessairement les mélos. Alors, je sais que ça se fait pas de dire ça. Mais c'est pas les mélos Douglas Sorg parce que je trouve que les personnages pleurent trop à notre place. Mais c'est par exemple Brokeback Mountain et ces scènes de joie dans Brokeback Mountain qui me bouleversent.
Vous avez fait un test récemment ?
Non, je me fais.
T'as pensé à quoi ? Ah ! T'as pensé à qui ?
J'ai tout le temps l'impression d'avoir peur, Mickey.
J'avais envie qu'on passe un peu de temps ensemble.
Je pense que je suis meilleur photographe depuis la maladie.
T'as les mêmes gestes quand tu le sers contre toi ? C'est dur, mais ça va aller.
De toute façon, on a la vie devant nous maintenant.
C'était Gaël Morel, le réalisateur de Vivre, Mourir, Renaître. Il était accompagné par un de ses acteurs, Victor Belmondo, donc le petit-fils de Jean-Paul, qui a fait très peu de films, hein, finalement. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'il a expliqué qu'il avait perdu du poids pour ce rôle, alors qu'il interprète finalement la personne séropositive, mais pas malade. On l'écoute.
C'est la première fois que j'ai eu besoin de vraiment trouver un corps au personnage. C'est vrai que quand j'ai échangé avec Gaël, il m'a dit que j'avais pas besoin d'en perdre. Parce que c'était le personnage de Samy qui était malade et que le mien était séropositif mais il n'était pas malade. Mais j'ai commencé à travailler en me disant que j'allais pas perdre de poids, mais très vite j'avais besoin de croire à ce que j'allais jouer, j'avais besoin de trouver un corps encore une fois à mon personnage. Et je pense que ça aurait pas été possible si j'avais pas perdu de poids. Après, j'ai pas perdu 20 kilos, hein. Mais j'avais juste besoin. Juste besoin d'avoir une rupture avec ma vie, en fait, et ma vie personnelle. et donc avec mon corps de Victor, et je voulais trouver le corps de Cyril.
Alors dans ce film, il y a des rapports homosexuels. Hein. Victor Belmondo donne la réplique à Théo Christine. C'est lui qui jouait Joe Star dans le film qui évoquait NTM. Et je lui ai posé la question hein, de ces scènes d'intimité. Est-ce qu'elles étaient faciles à toi ?
Je pense que sur les scènes intimes, il y a des difficultés quand on ne se sent pas en confiance, quand on ne se sent pas en sécurité, quand on sent une certaine fébrilité sur le plateau. Là, c'était tout le contraire. C'est un plateau où on se sentait... tellement bien, c'est un plateau qui était rempli de ce qu'est Gaël, c'est-à-dire un plateau tendre, doux, bienveillant. Donc franchement, on n'a pas eu de difficulté à lâcher prise. Il y a peut-être eu la toute première scène qu'on appréhendait un petit peu, qui est pas dans le film. Mais je me souviens que...
Oui. Non, mais pas entièrement.
Pas entièrement.
Et là, on appréhendait peut-être un petit peu avec Théo, mais pareil, Théo, c'est quelqu'un à qui je me sens en confiance. Je le connais depuis longtemps. On est amis, donc on était plutôt ok, plutôt détendu avec ces scènes-là. Et puis après la première scène, on s'est tous les deux regardés après la première prise. On a rigolé, on s'est dit oh, bah ça va en fait. Et puis à partir de là, toutes les scènes intimes qu'on a eu à jouer. Et puis surtout, on avait un réalisateur qui était à notre écoute, qui nous demandait si on était OK, si on n'était pas OK, ce qu'on voulait bien faire, ce qu'on voulait pas faire.
C'était Victor Belmondo, donc à l'affiche de Vivre, Mourir, Renaître, film en salle depuis le 25 septembre. Nous allons terminer l'émission avec un week-end qui promettait d'être radieux mais qui vire au cauchemar. Nous parlons de Speak No Evil.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
Je vous présente mon mari, Ben.
Patrick Field, et voici ma femme, Kira.
Elle, c'est Agnès. Ant a du mal à communiquer, il peut être un peu timide.
Alors, il existe hein, les feel-good movies, hein, ces péloches un peu sympathiques. Hein. Et puis, comme le yin et le yang, il existe aussi donc
les
feel-bad movies. Oui. Voilà, catégorie où on peut dire que des gens comme Lars von Trier et Michael Haneke sont les champions du monde. Alors, par intérêt cinématographique, mais aussi par masochisme, il m'arrive de prendre un plaisir pervers à ce cinéma doloriste. Mais parfois, trop, c'est trop. Alors, l'original de Speak No Evil, hein, un film danois hein, sorti en 2022 en VOD sous le titre Ne dis rien, déployait déjà un discours réactionnaire assez imbuvable, drapé sous les oripeaux d'un cinéma de genre traité avec efficacité. La petite morale perverse, hein, ne faites confiance à personne, rejoint au final cette longue liste de thrillers américains de la fin des années 80-90 où il y avait marqué un peu attention, mon voisin est très dangereux. Pourquoi me farcir donc le remake d'un film au demeurant bien réalisé, mais au scénario non seulement puant, mais filandreux hein. Peut-être pour son metteur en scène, James Watkins, qui avait réalisé un survival plutôt efficace qui s'appelait Eden Lake. Alors, rien d'étonnant finalement de le retrouver derrière cette production Blumhouse. Le postulat est le même. Une famille américaine rencontre de charmants Britanniques pendant les vacances. Ces derniers les invitent quelques mois plus tard à passer un week-end dans leur propriété. Mais ce séjour de rêve sur le papier va tourner au cauchemar.
On se détend, je vous le promets, ça va être un super week-end.
Ça fait combien de temps ?
17 ans.
17 ans.
Waouh.
On prend moins longtemps pour meurtre. Il y a un truc qui va pas chez lui.
Il a une malformation. Ça l'empêche de communiquer.
On a le droit de penser certaines choses, mais il faut pas les dire. Oh non.
Une chance qu'il y ait un médecin ici.
Je suis pas médecin.
Quoi ?
Pourtant, c'est ce que tu nous as dit, non ?
J'ai dit ça ?
Ouais.
T'as vu la tête qu'il faut ? Évidemment que je suis médecin, voyons. Ah.
Si l'original entretenait une ambiguïté sur la personnalité des antagonistes, très charmant au premier abord, le Speak No Evil version US ne s'embarrasse d'aucune subtilité. Dès l'apparition du personnage incarné par James McAvoy en roue libre, le spectateur ne se fait aucune illusion sur le comportement bourrin d'un sociopathe à la beaufrie insupportable. D'ailleurs, l'acteur s'est inspiré du masculiniste Andrew Tate pour son interprétation, ce qui, à mon avis, une erreur. D'ailleurs, donc d'emblée, on n'y croit pas. Le film a son efficacité, mais c'est un film vraiment très médiocre, une production Blumhouse, on va dire classique, qui dans la deuxième partie est très différent de l'original, virant plus au film moraliste américain qu'au propos, je dirais, très noir et douteux de l'original. Voilà, c'est le côté très américain, un peu cato quelque part, et puis le côté sombre du cinéma européen, vraiment. Donc, vaut mieux voir l'original, voilà. Qui est pourtant pas bon.
Voilà. Ainsi s'achève Cinérama.
Je vous trouve si nerveux. Quelque chose ne va pas ?
terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Elle lui arrive quoi, elle?
Au revoir.
Pardon?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir. De vous revoir, de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine pour Cinérama. Et vous, messieurs, vous aurez des films. Ce sont lesquels?
Alors moi, ce sera I Saw the TV Glow en VOD.
Et puis moi, je vous parlerai du dernier Ozon, Quand vient l'automne, et puis d'un thriller bizarre, Drone.
On sera peut-être l'occasion de jouer à un blind test Ozon. À la semaine prochaine.